nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici que de toutes parts, sous un soleil radieux, les foules se pressent vers la colline émaillée de prairies verdoyantes, jalonnées d'arbres en fleurs. À son sommet, un homme les attend, un grand prédicateur. Non, bien chers fidèles, il ne s'agit pas de cette colline qui, vers le ciel bleu, élance les flèches de la magnifique cathédrale de Chartres. Les pieds du monde ne sont pas baignés par l'Eure, mais par le lac de Génézareth. Jésus lui-même, Jésus, la béatitude, Jésus, béatitude incarnée, Jésus accueille les pèlerins au mont des béatitudes. À 9 reprises, il ponctue son discours. Béati, 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 bienheureux, bienheureux, bienheureux. Les temps, les lieux, la foule, le prédicateur ne sont pas ceux d'ici et pourtant ils sont semblables, ils sont les mêmes. C'est ce même évangile du bonheur, ce même enseignement, c'est même bienheureux d'être présent. Bienheureux étaient-ils alors, ces pèlerins, de rechercher le bonheur en Jésus-Christ ? Bienheureux furent-ils lorsqu'ils entrèrent aux cieux dans le royaume de Jésus-Christ ? Bienheureux sommes-nous, chers pèlerins, bienheureux sommes-nous d'être ici présents au commencement d'un cheminement spirituel de 3 jours, mais bien plus heureux serons-nous lorsqu'au terme de notre pèlerinage terrestre, nous entrerons dans l'éternité. Alors, chers pèlerins, si nous considérions vraiment la béatitude, toute notre vie serait changée. Et peut-être même que notre sac tout à l'heure nous paraîtrait plus léger, la route plus courte. Si nous comprenions mieux que ce bonheur ultime, cette béatitude, n'est pas seulement pour demain, mais elle est déjà pour aujourd'hui. Comme la noix précieuse, le fruit, est déjà contenu, quoique imparfaitement, dans le fruit vert de l'arbre et même dans la fleur, ainsi en est-il du bonheur du ciel. Notre Seigneur nous invite à être bienheureux, béati. Cela, pour quelqu'un qui écoute, n'a rien de bien original, car tous, tout prédicateur, tout homme promet le bonheur. Mais la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ promet d'être heureux est déroutante. Beati paupere spiritu, beati qui lugent, beati qui zuriunt, beati qui persecutionem patiuntur. Bienheureux les pauvres en esprit. Bienheureux les affligés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif. Bienheureux les persécutés. Ces paroles semblent insensées, voire scandaleuses. Où est le bonheur de celui qui souffre, de celui qui est affligé, de celui qui mendie de faim, de soif? Le bonheur n'est pas et ne peut être dans ses privations. Tous les malheureux nous le disent, persuadés à juste titre qu'ils sont faits pour être heureux et désespérément tendus vers leur épanouissement sans l'atteindre. Non, le bonheur n'est pas là. Que dit alors notre Seigneur dans cet enseignement? Il indique le terme, le but auquel il faut parvenir pour être heureux. Le bonheur, répond-il, est assurément dans l'épanouissement de soi, autrement dit, dans la possession de toute perfection. Le bonheur n'est donc pas ailleurs que dans la possession de Dieu. Et donc, dans la possession de Jésus-Christ. Pour celui qui possède Dieu, pour celui qui possède Jésus-Christ et qui est possédé par lui, tout le reste n'est que poussière, tout le reste ne vaut rien. Qu'importent les richesses terrestres à celui qui possède le Créateur de ces richesses? Qu'importent les misères d'ici-bas pour celui qui a le bonheur de posséder Dieu? Bienheureux donc ceux qui s'épanouissent en vertu, qui vont du parfait au plus parfait, jusqu'à être parfait comme le Père Céleste est parfait, à la suite du Christ. Ils goûtent vraiment le vrai bonheur. Ici-bas, les bienheureux de la terre, ceux qui suivent le Christ, ne goûtent pas encore pleinement le fruit. Ils ne sont pas encore parfaits comme les élus du ciel. Et nous-mêmes, eh bien, chers frères, le savons que trop. Mais pourtant, ils participent à une certaine béatitude parce qu'ils participent déjà d'une certaine perfection. L'arbre qui va fructifier se présente sous des aspects différents à l'époque de la frondaison verdoyante, à l'époque des fleurs et lorsque paraissent les fruits. De même, le fruit de la perfection, c'est-à-dire la béatitude achevée, sera pour le ciel. Mais la fleur de la perfection, le commencement du bonheur, peut déjà être goûtée ici-bas par l'homme vertueux, par le saint, par celui qui suit Jésus-Christ. Si donc Jésus dit des pauvres, des affligés, des persécutés, qu'ils sont bienheureux, ce n'est bien sûr pas en tant que pauvres, ni affligés, ni persécutés, mais c'est bien parce qu'ils ont posé des actes vertueux en dominant leurs passions, en servant Dieu fidèlement, en lui demeurant unis par la connaissance et par l'amour. Ils sont passés de la capacité, de la puissance de la vertu à l'acte vertueux. Et dans cette très belle cathédrale de Chartres, autour du cœur, il y a ces magnifiques bas-reliefs qui expriment toute la vie du Christ, ces actes parfaits accomplis par l'homme-Dieu, homme parfait et Dieu de toute perfection. C'est là le modèle des actes humains. C'est là le modèle du bonheur. Et notre Seigneur, nous le voyons pauvre, nous le voyons affligé, nous le voyons persécuté. Mais lui, en toute vérité, nous parle de béatitude. Sur le monde des béatitudes, le Christ peut montrer et montre cette perfection à laquelle on doit tendre. Ce qu'est la sainteté en acte, l'homme uni à Dieu. Et Jésus nous dit comment détruire la triple concupiscence qui nous éloigne de lui. Nul ne peut servir de maître. Inéluctablement, il en abandonnera un. Nul ne peut avoir de préférence pour deux choses en même temps. Aussi bienheureux ceux qui possèdent Dieu, et malheur à ceux qui sont remplis du monde, ceux qui sont vides de Dieu. Malheur terrible que le péché. L'âme qui préfère et choisit la créature est tellement rassasiée du monde qu'elle n'a plus de place pour accueillir Dieu. Aussi notre Seigneur nous invite-t-il à nous émonder. Ce mont de la béatitude, voilà la cause finale, voilà le but à atteindre. Chers pèlerins, marchons vers ce but. Contemplons le Christ, contemplons cette béatitude pendant ces jours et marchons vers ce but. Renouvelons cette intention de marcher vers le Christ. Vivons d'espérance, désirons le ciel. La marche vers ce bonheur, c'est une actuation progressive. Elle se fait pas après pas. Acte bon après acte bon. L'homme se bonifie peu à peu, et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous invite d'abord à passer par la vie purgative, à écarter l'obstacle de la volupté, qui laisse libre cours à la domination des passions, du concupiscible, de l'irascible, et qui nous attache trop au bien du monde. La volupté est un faux bonheur. Elle passe. Elle est un obstacle à la béatitude future parce qu'elle est illusoire, elle est contraire à la raison. Jésus affirme dans les trois premières béatitudes: bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux les affligés. Mais Jésus ne nous invite pas seulement à écarter l'obstacle de la béatitude. Jésus nous invite à préparer notre béatitude future par une bonne vie active, ici-bas, en servant Dieu dans le prochain, en pratiquant la justice, en pratiquant la miséricorde. Ce qui, notons-le bien, mes bien chers frères, exige au préalable de s'affranchir de son égoïsme. Et c'est pourquoi notre Seigneur, dans la quatrième et la cinquième béatitude, dit: bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, bienheureux les miséricordieux. Ces cinq béatitudes touchent l'amendement des passions, le perfectionnement de la vie active. Elles ne procurent pas le bonheur parfait ici-bas, mais elles procurent le plus haut bonheur que l'on peut obtenir ici-bas. Et elles préparent le bonheur futur. Elles méritent le bonheur du ciel. Les dernières béatitudes touchent à la vie contemplative, à la vie d'union avec Dieu. Telle sera la béatitude suprême, telle est la béatitude suprême. Partiellement, nous la percevons ici. C'est pourquoi le Christ en parle comme d'une récompense achevée au ciel et commencée ici. L'homme qui possède Dieu et qui n'est pas souillé, qui n'est plus souillé de la volupté par les passions, est nommé par notre Seigneur cœur pur, c'est-à-dire un cœur sans mélange. La pureté, c'est l'absence de mélange. L'amour pur de Dieu sans les scories de l'attachement aux créatures. Celle-ci ne formant plus un écran entre Dieu et lui, il peut voir Dieu. Lorsque ce cœur pur, apte à la contemplation, est en état de perfection dans sa vie active, à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain, eh bien son œuvre contribue à l'ordre de la justice, et la béatitude suivante le nomme pacifique. À ce pacifique, notre Seigneur promet d'être appelé fils de Dieu. N'est-ce pas là l'accomplissement de notre destinée? Ne sommes-nous pas là pour être un jour parfaitement fils de Dieu à l'image du Christ? Le pacifique, celui qui accomplit d'un cœur pur la volonté de Dieu et voit celui-ci à travers toutes les épreuves qui participent à sa purification, est donc le bienheureux par excellence, celui que chacun de nous doit devenir. Sa paix annonce celle de la béatitude éternelle, et c'est pourquoi la liturgie si splendide nous fait demander à chaque messe, à l'agneau de Dieu, modèle d'obéissance, modèle de perfection, avant de jouir cette même paix, avant de jouir de sa possession dans l'Eucharistie. Dona nobis pacem. Alors, chers pèlerins, pendant ces trois jours, approfondissons cet itinéraire spirituel de notre Seigneur. Regardons le modèle. Pour progresser dans les âges de la vie intérieure, la vie purgative, illuminative, unitive. Ce pèlerinage est l'occasion de se vider du monde. Levons l'obstacle du monde. Dominons l'attrait de la volupté. Faisons pénitence, sachant nous confesser. Et même dans cet examen de conscience que nous aurons l'occasion de faire sur ce chemin, faisons-le avec les béatitudes. Puisque la béatitude est la mesure du bien, puisque saint Augustin nous dit que les béatitudes sont le modèle parfait de la vie chrétienne, alors examinons notre conscience à la lumière de ces béatitudes. Être chrétien, ce n'est pas uniquement éviter le péché. Être chrétien, c'est faire le bien. C'est faire le bien comme le Christ. Demandons-nous si nous tendons au bon agir, si effectivement nous avons atteint une certaine perfection de l'agir, et amendons-nous de nos mauvaises conduites. Ce pèlerinage est l'occasion de nous remplir de Dieu en le servant activement dans la justice, essentiellement par notre hommage religieux d'ailleurs, par l'assistance à la messe, bien préparée, par la profession de notre foi, par nos chants. Ces trois jours qui s'ouvrent à nous viennent aussi nous exercer à la miséricorde à l'égard du prochain, nous aider à porter mutuellement nos croix, nos épreuves physiques et morales, à en sortir enfin. Prions ce chapelet, prions pour ces intentions qui nous ont été confiées, pour l'Église, pour la France, en réparation des crimes qui sont commis comme l'avortement. Prions pour nos écoles, prions pour nos familles. Nous remplir de Dieu à travers les actes de la vie quotidienne. Une vie active dans la perfection. Et ce pèlerinage est surtout l'occasion de ne faire qu'un avec Dieu dans la charité. Alors demandons qu'en méditant chaque béatitude, notre esprit et notre cœur se mettent à l'unisson du Christ, que nous ne fassions qu'un, que nous soyons vraiment les membres de celui qui est la tête du corps mystique, nous soyons vraiment à l'image de ce modèle de perfection, la béatitude incarnée, notre Seigneur Jésus-Christ. Recevons-le, notre Seigneur, avec fruit, dans une communion fervente. C'est là la perfection de l'unité de l'homme avec Dieu. Jésus a dit, « Je vous enverrai l'Esprit Saint, il rendra témoignage de moi et vous serez mes témoins. » Il ne suffit pas de croire et de connaître pour être un témoin. Il faut imiter la perfection du Christ. Il faut aimer et agir comme lui. Il faut accomplir ses commandements, résumés dans l'amour de Dieu et du prochain. Que la fête de demain nous obtienne du Saint-Esprit cette docilité des vrais témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Notre-Dame, qui prépara la venue de son Fils, de celui qui est toute perfection, que Notre-Dame, qui prépara les témoins du Cénacle, lumière de l'Église, nous assiste ces trois jours et pendant tout notre pèlerinage terrestre pour progresser de vertu en vertu, de perfection en perfection, de bonheur en bonheur, selon l'évangile des parfaits, l'évangile des béatitudes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.